Bonjour, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Tous les lundis, toujours autant, ravi de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Courtoisie.
Aujourd'hui, nous recevons Franck Martini, qui est maintenant un habitué de cette émission. Les auditeurs de Radio Courtoisie commencent à bien le connaître. Pour son quatrième titre, qui est sorti il y a très peu de temps, donc Manifeste du Principat, Démocratie et Peuple Souverain. Donc, démocratie et peuple souverain, c'est un sujet qui lui tient à cœur parce que les autres livres, il analysait un peu les situations, vous me corrigez si je me trompe. Dans ce petit livre, il fait une proposition. Donc, Franck Martini, d'abord bonjour et merci
Bonjour, bonjour.
d'avoir répondu à notre invitation. Mais on pense souvent que démocratie et libéralisme sont complémentaires. Et c'est peut-être la première idée que j'ai comme ça à proposer, c'est vous expliquer en gros que non seulement ce n'est pas complémentaire, mais c'est vous les dissociez et vous les opposez même.
Oui, je les oppose pour une raison simple, c'est-à-dire que le libéralisme, finalement, met en place à travers la démocratie libérale un système représentatif qui a ses avantages et ses inconvénients, mais qu'on ne peut pas qualifier intrinsèquement de démocratie. Et qui contient en lui d'ailleurs une tension perpétuelle entre l'affirmation d'un côté de la souveraineté du peuple et en même temps, la pleine liberté des individus qui va se traduire notamment par les droits de l'homme. Et on va assister à une tension permanente sur ce point-là. Et où finalement ce qui se passe en Europe montre que finalement la souveraineté populaire est souvent sacrifiée sur l'autel d'une forme d'individualisme radical hein, qui se joue à travers la Cour européenne des droits de l'homme, à travers tout un ensemble de choses. Mais l'individu, c'est le choix, j'allais dire, d'origine et principale du libéralisme. Hein. Donc, c'est pas forcément étonnant non plus.
À l'origine, justement, des grands débats sur le libéralisme politique, il y a ce que l'on a appelé la querelle des anciens et des modernes, la liberté des anciens et des modernes, plus exactement,
De
dont
Benjamin
parlait
Constant,
Benjamin
oui.
Constant. Et est-ce que pour employer un terme anglais que les auditeurs me pardonnent, est-ce que le deal, justement, n'est pas de laisser, en tout cas, l'impression aux individus qu'ils ont le domaine privé pour eux, recherche individuelle du bonheur, en échange d'un abandon, d'une abdication de leur souveraineté civique. Est-ce que c'était pas ça, à l'origine, le deal proposé par le
C'est
libéralisme?
le deal, hein. C'est finalement la logique de Benjamin Constant, c'est de dire les modernes trouvent leur épanouissement dans la réalisation de leurs affaires privées. Pense au commerce, hein, on pense aux industries, à toutes ces choses-là. Et c'est ainsi qu'ils entendent vivre et exercer leur liberté. Qui d'ailleurs se traduit immédiatement comme l'absence de contraintes dans ce domaine-là. Tandis que la liberté des anciens, c'était leur capacité à agir sur les contraintes sociales, c'est-à-dire, on le traduit très vite, par participer aux affaires publiques. Voilà. Et là, il y a bien entendu deux visions qui sont tout à fait antinomiques. Et donc, ça a été la ligne hein, du ce que j'appelle le libéralisme réel hein, et qu'il a poursuivi depuis maintenant un certain temps. Et qui trouve aujourd'hui d'ailleurs une forme d'expression particulière de tension.
Alors, ces tensions-là, vous les attribuez entre autres à ce que vous appelez une dérive élitaire. Qu'est-ce que c'est, cette dérive élitaire?
La dérive élitaire, elle est contenue déjà dans la démocratie libérale du moment que le citoyen délègue, ce qui d'ailleurs, par rapport à l'origine de la conception du citoyen, n'a aucun sens en fait. Hein. Un citoyen ne peut pas déléguer, sinon il devient passif et ça n'a pas de sens. La logique de la représentation de la délégation fait que d'abord se constitue une classe qu'on appelle classe politique et dont la fonction et de gouverner ou de prétendre gouverner.
Ça devient une profession comme une autre, en fait.
Oui, mais ça interroge parce que quand on est dans une démocratie, la classe politique, c'est le corps civique. Il ne peut pas y avoir une classe spécialisée dans le gouvernement des hommes. C'est pas envisageable. Donc déjà, on voit bien qu'il y a un écart manifeste. Et donc, comment dire, le premier point, c'est qu'on a, à travers la démocratie libérale, assez nécessairement un système qui est très vite un système militaire, qui fonctionne. Mais ce qu'on a vu sur les dernières décennies, et qui est quand même assez particulier, c'est que finalement, au départ, on a des élites assez différenciées. D'un côté économique, de l'autre des élites administratives, hein, qui peuvent être des grands serviteurs de l'État ou des gens
hauts fonctionnaires,
des hauts fonctionnaires.
L'ENA avant.
Voilà. Y a un tournant là qui s'est pris, on va dire, à partir des années 60, qui probablement a été pensé d'ailleurs et réfléchi avant. Je pense à Lippmann, à Hayek, à des gens comme ça, sur la réunion qui vient de donner son nom au néolibéralisme à Paris en 1938. Qui organise les voies d'un nouveau libéralisme.
Tout le monde pèlerin, en gros, c'est un peu cette idée-là.
Et qui fait qu'on assiste à une vraie coagulation élitaire, où la distinction entre élite administrative qui joue leur rôle dans un État arbitral qui vient réguler les liens un petit peu entre l'élite et les classes populaires disparaît, parce que la distinction entre élite économique et élite administrative non, devient poreuse, mais tend à se dissoudre. Hein, et s'est accéléré avec la transnationalisation de ces mêmes élites. Quoi.
On le voit dans les faits, d'ailleurs, puisqu'on voit beaucoup de ces... C'est très perméable. On voit des élites passer d'un camp à l'autre, c'est-à-dire diriger de grandes entreprises, réintégrer le corps de l'État, repartir, vous voyez, c'est ce qui n'était pas le cas avant.
On va citer un exemple, hein, c'est un peu loin du propos, mais enfin, c'est toujours intéressant, la négociation sur les concessions des sociétés d'autoroutes ont été discutées entre Mme Borne et M. Le Maire, qui représentaient l'un les intérêts privés, l'autre les intérêts publics, hein, et puis 6 mois après, ça peut être l'inverse, enfin bon, là, on voit qu'il y a une forme de collusion, ce qui finit en même temps d'ailleurs par donner un effacement du cadre national, ce qui est évidemment très problématique du point de vue strictement démocratique, et cet effacement du cadre national et cette fusion des élites donne aujourd'hui une configuration tout à fait particulière où on est toujours... j'allais dire, dans le mantra de la souveraineté du peuple, hein, pour le peuple, par le peuple, mais qui ne fonctionne plus que comme slogan, parce que la réelle souveraineté n'est plus là. Quoi. Mais ça ne devient pas tant, finalement. Hein,
les hauts fonctionnaires européens, par exemple, dans ce corps-là, on voit aussi beaucoup d'anciens hauts cadres de l'industrie et de l'entreprise qui deviennent des hauts fonctionnaires européens. Donc,
Monsieur Breton qui va travailler.
C'est à lui que je pensais, figurez-vous.
Voilà, évidemment.
Entre autres. Et même, on voit aussi dans le corps diplomatique, de plus en plus, chez des militaires de haut rang qui.
Des chefs d'état-major, par exemple.
Qui se reconvertissent dans le privé. On a eu des scandales dans le corps diplomatique, de conflits d'intérêts, des diplomates qui travaillent pour des entreprises et qui utilisent leur carnet d'adresse qu'ils avaient.
Donc c'est ça la coagulation élitaire, c'est-à-dire on a des gens dont le cadre de référence n'est plus national, il est mondialisé, et qui peuvent passer d'une situation à l'autre sans aucun souci, mais ce qui fait que la fonction intrinsèque des élites, c'est-à-dire d'assurer une responsabilité vis-à-vis des classes populaires, disparaît complètement. Ce qui crée
ils perdent leur neutralité. En fait.
Ils perdent leur neutralité. Et puis finalement, s'ils ne se considèrent pas naturellement comme porteurs d'une responsabilité et vis-à-vis du pays et vis-à-vis des classes populaires, bien entendu, ça va très vite poser un certain nombre de problèmes.
Alors moi, j'ai une question un peu terre à terre, mais autrefois, la classe politique... Le cheminement d'un homme politique commençait en bas de l'échelle, dans sa commune, et puis on progressait comme ça, on était élu municipal, maire, et puis conseiller général, président
député,
conseil général, député ou sénateur. Et puis on devenait ministre. Mais comme on est parti d'en bas, on connaissait un peu les populations qui...
Les populations et l'appareil d'État aussi, en même temps.
Exactement, parce qu'on découvrait l'appareil d'État au fur et à mesure que l'on progressait, etc. Et puis après, il y a eu... cette espèce de nouveau mécanisme qui fait que des écoles d'administration, l'ENA et d'autres écoles, hein, pas que l'ENA, où l'on est parachuté comme ça très jeune, même par exemple l'école de la magistrature, on devient juge à 25 ans sans aucune expérience. Et donc on parachute comme ça des jeunes à qui on explique qu'ils sont formidables et qui sont au-dessus de tout le monde.
Et qu'ils savent déjà tout.
Administrer l'État, et puis ils finissent dans les entreprises, c'est ça, ce qu'on vient de dire. Et donc, le fait de... Et puis après, ils sont parachutés ministres, enfin, ils sont nommés ministres ou hauts fonctionnaires, et après, ils sont parachutés dans les circonscriptions, vous voyez, donc c'est le truc à l'envers. Est-ce que cette idée de... c'est là ma question, est-ce que cette idée de former des hauts fonctionnaires comme des... j'allais dire comme des robots spontanément, mais enfin, comme des élites formatées, je dirais, plutôt que de les laisser découvrir l'appareil d'État en progressant dans les fonctions en partant du peuple, est-ce que ce n'était pas là aussi une sorte de...
Ça produit un désenracinement, évident. Et puis il y a un autre aspect qui me semble très important, c'est qu'on forme des experts, des techniciens, des gestionnaires. Et ce n'est pas la même chose que de former des serviteurs de l'État. Ça n'a même rien à voir. Hein. On ne parle pas là, en termes de niveau de compétence. On parle d'identité profonde et de nature
et de
choix.
Et de vocation.
Et de la nature des choix qui seront faits. C'est-à-dire que finalement, on arrive à un système qui a besoin de techniciens, d'experts, qui préfèrent à la limite l'expert au fonctionnaire classique. Bah, le recours à des cabinets comme McKinsey et autres en est une illustration, et on va se mettre à former...
Souvent, ils sont experts de rien du tout, d'ailleurs.
Oui, bon, ça, c'est encore autre chose, mais là, on va se mettre à former les futurs hauts fonctionnaires, comme on formerait n'importe quel gestionnaire, et on perd la dimension intrinsèque, service de l'État, service de la nation, service du peuple, ce qui veut dire une idée historique, ce qui veut dire s'appuyer sur un legs, ce qui veut dire s'appuyer sur une culture, c'est obsolète, hein. On passe à autre chose.
Mais des techniciens donc plutôt que des enfin, je veux dire que la formation est importante, quoique il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le bon sens, hein, qui parfois n'ont pas besoin forcément d'une formation longue et technique. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui on forme plus de, donc vous venez de le dire, des techniciens, mais qui sont souvent qui ont une culture très faible en fait, hein, sur le...
En tout cas, une culture générale, déjà.
Culture générale,
historique, littéraire.
Regardons les cursus des grandes écoles, hein, et on comprendra aussi pourquoi. Puis on verra aussi ce qui est valorisé, ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que l'ensemble culturel, c'est-à-dire l'arrière-plan culturel qu'un individu a, va quand même déterminer la manière dont il va se saisir des outils techniques qu'il va s'approprier. Si vous êtes simplement un technicien dévoué à votre propre technique, mais complètement délié de l'ensemble de la culture préexistante, ça va donner un technocrate, hein, tout simplement. Quoi.
Est-ce que ce n'est pas dû aussi à cette idée de Bourdieu qui s'est appliquée finalement, hein, de mettre les mathématiques en avant ? Parce qu'autrefois, la classe politique, si on remonte avant les années 60, la classe politique était formée plutôt de littéraires. Et donc, et puis ça a basculé petit à petit, et maintenant, c'est même pas des mathématiciens, d'ailleurs, c'est des techniciens. Mais disons qu'il n'y a plus de littéraire dans la classe politique de manière globale.
Parce que quasiment plus.
Quasiment plus.
Alors qu'avant, et en plus, ceux qui le sont ne sont pas vraiment des modèles. Ouais.
Est-ce que c'est pas cette idée de mettre le littéraire en arrière sous prétexte que ça avantage la bourgeoisie, enfin, vous savez, la fameuse théorie de Bourdieu. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a contribué?
Moi, je pense que c'est des évolutions structurelles. Elles ne dépendent pas forcément de tel ou tel point. Mais il y a quelque chose qui m'apparaît assez extraordinaire. C'est-à-dire, en une époque, donc, et notamment en Bourdieu, on dit la reproduction sociale, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que sinon, on n'a pas de circulation. Et puis, au fond, il n'y a aucun débouché pour des gens venus des classes populaires. Et puis, on reproduit socialement des schémas existants. Depuis qu'on a mis en place une idéologie qui est destinée fermement à combattre ça, la reproduction sociale n'a jamais été aussi forte.
Oui, en fait, ça a eu l'effet inverse. C'est pas vrai. Oui.
Donc, c'est aussi sur les résultats obtenus qu'on mesure la qualité des analyses faites au départ, quoi.
D'ailleurs, c'était faux parce qu'il y avait des classes populaires qui accédaient à des postes par l'école républicaine classique. Oui, parce qu'il y avait une école de bon niveau qui gratuite qui formait.
Qui détectait les talents et qui vers le haut.
Mais parce que c'était un appareil, j'allais dire, qui appartient au commun, c'est-à-dire qui était partagé, pris au sérieux par tout le monde. Et en vue du bien commun. Et qu'on soit de telle origine ou de telle autre origine, la qualité de l'école et la qualité de l'enseignement dispensé ne devait pas faire de différence. On était dans la méritocratie et de ce fait-là, c'est les qualités dans son sac de l'individu qui pouvaient parler. C'est plus le cas.
Non, aujourd'hui, il faut payer des fortunes pour accéder à de bonnes écoles d'un niveau correct. Hein,
oui.
Ce n'était pas le cas avant.
Bah oui, mais ça, si c'est pas un filtre de sélection, oui, c'est évident.
Alors, à contrario de ce diagnostic que vous posez depuis plusieurs livres, alors, à contrario, on va faire une pause, surtout pour Bovino, et je vous pose ma question après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
On revient sur le projet.
Merci d'avance.
Justement, j'allais dire, il nous reste 10 minutes. Faut...
Et on reprend justement sur le livre de notre invité Franck Martini. Et...
Parce que là, c'est un livre de proposition.
Mais justement, parce que le titre est Manifeste du Principat. Il va falloir peut-être commencer et donner envie à nos auditeurs de découvrir ce qu'est le Principat dans votre acception. Qu'est-ce que c'est ?
Bah, déjà, c'était une tentative de dire, tiens, si on prenait la démocratie au sérieux, pas le système représentatif, on va penser ce que pourraient être des institutions démocratiques et on va essayer de décliner tout ça, de voir s'il y a des choses qui fonctionnent ensemble et qu'est-ce que ça donnerait comme ensemble cohérent et à peu près homogène. C'était ça le projet, hein. C'est-à-dire c'est un peu un exercice de style en disant, maintenant qu'on a fait la distinction entre le système représentatif et démocratie, on va voir ce que c'est que la démocratie, potentiellement en tout cas, dans sa déclinaison effective et opératoire. Et c'est ça le fondement du Principat, qui essaie de répondre institutionnellement à comment on peut faire réémerger un droit du peuple qui vient équilibrer le droit individuel, sans limiter les libertés individuelles d'ailleurs, hein, ça c'est extrêmement important. Comment justement on évite et on limite cette coagulation élitaire en séparant les pouvoirs, puisque la séparation des pouvoirs, depuis Montesquieu, c'est la comment dire, de tout bon régime se doit d'y recourir nécessairement. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a beau séparer les pouvoirs, du moment que ce sont les mêmes qui les occupent, ça n'a aucune importance en réalité. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs devient formelle, mais dans la pratique, ça n'a aucun sens. Donc peut-être fallait-il aller un peu plus loin et séparer les pouvoirs et les puissances. C'est-à-dire que si on veut un État arbitral et un État démocratique, bah, peut-être que séparer l'État des puissances financières et économiques, empêcher ces mêmes puissances financières et économiques d'avoir la mainmise sur les médias et empêcher l'État d'avoir la mainmise sur les médias également, remettre chacun dans sa zone et que de redistinguer l'ensemble des élites pour éviter cette coagulation élitaire qui est terrible dans ses effets. Donc ça induit un certain nombre de conséquences. Dépasser le débat battu-rebattu, démocratie représentative, démocratie directe, qui est une espèce de tarte à la crème qui mène absolument à rien, dans un système démocratique, bien entendu, va utiliser parfois de la démocratie directe, parfois de la démocratie civique, c'est-à-dire de l'implication des citoyens eux-mêmes dans des affaires publiques.
Hein, donc des référendums.
Alors, direct, c'est des référendums. Démocratie civique, on peut très bien, mais très facilement engager, par exemple, des corps citoyens sur tel aspect, relativement à la justice, relativement à la sécurité, relativement à la santé, à d'autres choses, ou des corps citoyens. Vous avez, je prends un exemple très bête, hein, vous savez, on fabrique du citoyen quand il a une pratique de citoyen. C'est par la pratique, hein, c'est pas par le fait de respecter telle ou telle idéologie. Je prends un exemple micro pour qu'on comprenne l'idée. Il y a des EHPAD publics. Créer un conseil citoyen où des gens vont pouvoir évaluer le fonctionnement, orienter le fonctionnement et avoir une vue sur le fonctionnement de cet établissement-là, est-ce que ça pourrait pas être une bonne chose qui mêle tout un chacun justement aux affaires publiques, hein, puis ça fait partie des affaires publiques, et puis on peut décliner tout ça, il y a un certain nombre de propositions dans le livre, hein, à divers échelons. Ça c'est la démocratie civique, et la démocratie représentative également, limitée parce qu'un certain nombre de lois sont votées directement, mais avec une modification qui est importante, c'est de dire aujourd'hui on vote par circonscription. Est-ce que demain, ce ne serait pas intéressant et plus démocratique de voter par collège électoraux, où chacun appartenant à une classe sociale, finalement, élu les représentants qui correspondent à sa propre classe sociale et pas se retrouver, finalement, avec, des députés qui finissent par être des représentants de lobbyistes, des représentants de factions et de partis, enfin des représentants de beaucoup de choses.
On va vous dire que vous ramenez
à la société d'ordre, j'allais le dire.
Oui, exactement. On va vous dire que vous êtes un réactionnaire qui revenait à la société des trois ordres.
C'est pas la société des trois ordres.
Tout à fait,
la,
ça ressemble un peu.
Ça ressemble pas, puisque chacun est élu.
Corporatisme.
Il est élu démocratiquement. Il est élu sur la base du fait qu'on reconnaît que des classes sociales existent et qu'éventuellement, elles peuvent avoir des conflits d'intérêts. Jusque-là, il n'y a pas de découverte majeure. Et qu'une réelle représentation demande à ce que des gens qui appartiennent à une classe, par exemple, populaire, soient représentés par des gens qui sont issus de cette classe. C'est pas du corporatisme.
Ça ressemble.
C'est pas tout à fait du corporatisme. Le corporatisme, on est dans une corporation qui viendrait défendre ses propres intérêts. On supposerait que là, ça n'empêche pas les uns et les autres d'avoir une vue du bien commun.
Est-ce que ça ne serait pas une petite touche de marxisme, alors ?
Je pense que certains qui vont lire ce livre vont retrouver certains aspects très à gauche et d'autres très à droite. Je pense qu'en fait, la manière dont il est pensé, ça sort un peu des catégories habituelles hein, de gauche, de droite, même de conservatisme et de progressisme. Justement, j'ai essayé de décaler un petit peu les choses pour pas qu'on se retrouve in fine entre l'opposition entre le libéralisme et les autoritarismes, ou le libéralisme et le communisme, ou des choses comme ça. Il y a les propositions qui peuvent relever du collectivisme, mais il y a les propositions qui sont très libérales à l'intérieur. C'est simplement parce qu'on change l'axe de vue et on reste sur une logique démocratique, c'est-à-dire réalité du citoyen, souveraineté populaire, donc droit du peuple. Quand on prend ça et qu'on veut le mener au bout, ben la grille de lecture
Les défenseurs du nationalisme vont vous dire que vous faites plusieurs catégories de citoyens, parce que pour eux, le citoyen, modèle est unique.
Et que vous les définissez en fait sur un critère qui est d'abord économique, peut-être.
Son activité de citoyen, chacun l'exerce. Quelle que soit sa classe, là, il n'y a pas de souci. On parle de simplement de l'aspect représentatif. Pour être élu représentant, hein, donc ce n'est pas un maire ou quelque chose comme ça, à la Chambre des députés, vous devez être issu de la classe sociale à laquelle vous appartenez. Pour moi, je vais dire quelque chose. Quand il s'agit de faire la parité entre les hommes et les femmes, finalement,
c'est un peu le principe.
Tout le monde court derrière. Quand il s'agit de faire la parité entre les pauvres et les riches, on trouve ça très bizarre. Je m'étonne un peu, en fait.
Ceux qui sont contre la parité entre hommes et femmes, c'est eux qui voudront. En effet,
Non, mais les autres aussi, ne vous inquiétez pas.
Oui, d'accord.
Et alors, retour aussi, parce que on a l'impression que vous avez des modèles qui sont historiques, mais que vous essayez en effet de reprendre, de ruminer et de digérer pour en sortir des adaptations propres à assumer, on va dire, la société moderne et ses évolutions
Absolument,
futures.
Absolument, c'est pas un archaïsme. Et en même temps, d'une certaine manière, comme on n'a pas vraiment vu fonctionner une société démocratique en Europe,
oui, pure,
effective et réellement installée, donc on est un petit peu obligé d'aller dans l'innovation. Et je pense pas que cette logique-là démocratique elle s'oppose à l'innovation d'ailleurs ou à quoi que ce soit. Par contre, elle a des conditions préalables, et la première, c'est la souveraineté. Pas de citoyen libre dans un pays qui ne l'est pas. Ça n'aurait aucun sens.
Le modèle suisse que l'on prend souvent en exemple, est-ce que vous ne considérez pas qu'il est parmi
les
moins imparfaits en Europe.
Oui, les moins imparfaits, mais en même temps, on pourrait aller beaucoup plus loin et dans une toute autre logique. Hein. C'est une confédération aussi, la Suisse, hein, donc on n'est pas obligé d'avoir un modèle confédéral.
Je faisais allusion, non pas aux. Bon, bien sûr, c'est
la pratique
civique. Sur les votations,
la vie civile des Suisses.
Ou le fait, par exemple, que les gens qui ont fait leur service militaire gardent leur âme chez eux.
La défense citoyenne.
On a quelque chose de
autrement plus efficace que le service militaire que nous avions autrefois.
C'est un positionnement républicain très affirmé.
Et très, très à l'antique quand même, et ça rejoint l'utilisation du mot principal. Bon, hein.
En tout cas, ça prouve qu'on s'empêche de penser souvent un certain nombre de choses, même de les penser de manière un peu radicale et en rupture, à tort, parce que tant qu'on ne disposera pas, je pense, hein, d'un projet mobilisateur, et que finalement, les critiques qu'on peut faire au système actuel, les plus acerbes, nous permettraient simplement de revenir à ce qui se faisait aux années 80, on ne mobilisera personne, en fait. Hein. Oui. C'est pour retrouver un peu de souveraineté, un peu de ceci, un peu de cela, mais que le système reste en place et se remette à fonctionner comme il fonctionnait, il aboutira au même résultat. Mais quelles seraient des propositions qui soient en rupture, qui ne soient pas, d'un côté, des propositions franchement autoritaires, ou des propositions qui finissent par préserver, finalement, le système tel qu'il fonctionne, parce qu'on met simplement l'accent sur une thématique ou sur une autre, hein, mais on ne change rien sur le fond.
On vous remercie, Franck Martini, pour votre présence avec nous aujourd'hui. On rappelle les références de votre livre, le dernier, donc Manifeste du Principat, Démocratie et Peuple Souverain aux éditions Godefroy.
Avec une préface d'Alain Benoît, très gentiment.
Et c'est un livre qui fait moins de 100 pages, donc facile à lire.
Courez l'acheter.
Et
quand j'ai facile à lire,
je me trompe. Il y a des gros livres faciles à lire. On peut le lire rapidement.
Mais c'est très stimulant.
Aussi, il est facile à lire.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique. Bonne soirée.
Merci, à bientôt.